Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est midi et demi en temps universel, une heure de plus ici à Paris. Et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Dans l'est de la RDC, les combats ont repris ce matin entre l'armée congolaise et ses alliés d'un côté, le M23 et des militaires rwandais de l'autre. Des combats dans les environs de Sake, à l'ouest de Goma, mais aussi au nord de la capitale provinciale du Nord Kivu. Au Mozambique, le nouveau président Daniel Chapo renvoie l'inspecteur général de la police. Bernardino Raphaël était très critiqué pour la répression sanglante des manifestations post-électorales. Au Mali, plusieurs partis politiques dont l'ADEMA, le PARENA ou YELEMA réclament à nouveau le retour à l'ordre constitutionnel et une date pour des élections. Youssouf Diawara, le président de YELEMA, est notre invité. Les combats ont repris ce matin au Nord Kivu. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 et des militaires rwandais. Depuis hier, ce sont dans les environs de Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, que se sont concentrés les affrontements. Pauline Azidi, ce matin, c'est au nord de la capitale provinciale que le bruit des armes se fait aussi entendre.
Oui, c'est vers 4h du matin que l'on a signalé de nouvelles détonations du côté de Kibumba. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. C'est donc l'autre grand axe qui mène à la capitale provinciale, qui est le théâtre d'affrontements. Cette route mène au territoire de Rutshuru, occupé par le groupe armé M23. Du côté de Sake, les combats ont repris dans la matinée. Des hélicoptères de l'armée congolaise sont intervenus. Sur ce front, il y a aussi des militaires de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, et de la SAMI. DRC, les troupes de la communauté d'Afrique australe. Enfin, plus au nord de la province, dans le territoire de Lubero, selon l'armée, plusieurs bombes ont été tirées hier soir dans la chefferie de Bamaté par les rebelles, faisant plusieurs blessés.
Et à Kinshasa, pendant ce temps, le président est rentré de Davos en Suisse hier pour animer une réunion de crise.
Réunion ce jeudi soir avec la première ministre et le commandement militaire. Ce vendredi, un conseil de défense est convoqué, puis ce sera le conseil des ministres qui a traditionnellement lieu tous les vendredis. La situation à l'Est sera bien sûr au cœur de ces deux rendez-vous. Plus loin, à New York, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Wagner, est attendue pour participer à un conseil de sécurité extraordinaire de l'ONU sur la RDC.
L'ONU, qui, par la voix de son secrétaire général, exprime son inquiétude.
Le secrétaire général est alarmé par la reprise des hostilités. Il condamne avec la plus grande fermeté la nouvelle offensive lancée par le mouvement du 23 mars. Depuis le début de l'année, son extension au nord Kivu et au sud Kivu. Dans ce même communiqué, Antonio Guterres appelle le M23 à cesser immédiatement son offensive, à se retirer de toutes les zones occupées et à respecter l'accord de cessez-le-feu du 31 juillet 2024. Il rappelle aussi le dernier rapport du groupe d'experts qui confirme la présence de troupes rwandaises au Congo. Face à la tension sécuritaire, plusieurs ambassades ont émis des avis à l'intention de leurs ressortissants. L'ambassade américaine à Kinshasa a averti que l'intensité des combats pouvait compliquer la capacité de son personnel consulaire à offrir une assistance dans la région du Nord Kivu. L'ambassade britannique a pour sa part déconseillé tout voyage à Goma. Enfin, l'ambassadeur de Suisse ici à Kinshasa s'est dit alarmé par l'escalade de la violence.
Zidi en direct de Kinshasa. Ces affrontements qui font monter la pression sur Goma provoquent l'inquiétude des habitants du chef-lieu du Nord Kivu. Certains d'entre eux hier ont traversé la frontière rwandaise pour se mettre à l'abri dans la cité jumelle de Rubavu. À Rubavu, le reportage de notre envoyé spécial Lucie Mouillot.
Devant la grande barrière, les taxis se pressent pour aborder les voyageurs arrivés de Goma en nombre avant la fermeture quotidienne du poste frontière en milieu d'après-midi. Une valise à la main avec ses deux enfants, Amina a préféré passer la nuit à Rubavu.
Mon mari habite ici. Il m'a dit de venir juste de traverser aujourd'hui avec les enfants pour cause des paniques qui est dans la ville de Goma. Pour la raison des guerres. Juste ça.
Une précaution prise par un certain nombre d'habitants de Goma, inquiets suite à l'intensification des combats dans la zone. Sac en main, Innocent Mansourou a décidé de traverser la frontière pour se réfugier dans un hôtel.
Au niveau de la douane, c'était plein à craquer. Quand on a de petits enfants, on ne va pas attendre et quitter à la dernière minute. Parce que tout peut changer, on ne sait pas, nous on n'est pas à la ligne de front, on ne sait pas ce qui se passe là-bas.
Dans un communiqué, la société civile de Goma appelle la population au calme et à ne pas quitter la ville. Mais les détonations entendues ce jeudi jusqu'à Rubavu ont poussé certains habitants à se mettre à l'abri.
Même maintenant qu'on se parle maintenant, il y a Inobi qui vient de se faire attendre jusqu'ici où nous sommes. Alors imaginez ceux qui sont de l'autre côté, c'est comme si ça explose juste dans la parcelle voisine. Voilà ce qui fait qu'on a décidé de quitter.
Comme beaucoup, Innocent prévoit d'attendre ici l'évolution de la situation sécuritaire en espérant pouvoir rentrer le plus rapidement possible à Goma. Lucie Mouillot, Rubavu, RFI.
Au Mozambique, l'inspecteur général de la police démis de ses fonctions. C'est le nouveau président Daniel Chapeau en personne qui l'a limogé. Bernardino Raphaël était à la tête de la police nationale depuis 2017. Il était très critiqué pour la répression des manifestations post-électorales qui, selon la société civile, a fait plus de 300 morts en 3 mois, Gaëlle Lalex.
Dans son communiqué, la présidence mozambicaine ne donne aucune explication au renvoi de Bernardino Raphaël. La presse, proche de l'opposition, comme Canal Mozambique ou Savannah, salue quant à elle la chute du bourreau. Durant la crise post-électorale, Bernardino Raphaël a maintenu une ligne très dure, qualifiant les manifestants de terroristes. Selon le dernier rapport de la plateforme électorale Décide, publié aujourd'hui, 90% des 315 victimes de la répression ont été tuées par des balles réelles. 730 personnes ont également été blessées par ce type de munitions. Ce renvoi intervient alors que la dépouille d'un journaliste, Arlindo Chissale, vient d'être découverte dans le nord du pays. Le rédacteur en chef de Pinnacle News, soutien de l'opposant Venancio Mondlane, avait disparu depuis le 7 janvier alors qu'il voyageait entre Pemba et Nacala. D'après le Centre pour la démocratie et les droits de l'homme, il a été aperçu pour la dernière fois dans une voiture blanche non immatriculée, accompagnée de 3 hommes en uniforme. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'ONG demande une enquête sur les circonstances de sa mort. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
Au Sénégal, le député de l'opposition Farban Gom, proche de l'ancien président Macky Sall, vient de voir son immunité parlementaire levée. 130 députés ont voté pour ce matin afin que ce parlementaire accusé de blanchiment d'argent par le parquet financier puisse répondre aux questions de la justice. Les élus de la coalition de Farban Gom ont quitté l'hémicycle avant le vote en signe de protestation. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sortiront officiellement mercredi prochain de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est cette même date que ces 3 pays, désormais réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, ont choisi pour lancer leur propre passeport commun, Serge Daniel.
Un spécimen du prochain passeport commun aux 3 pays de l'Alliance des États du Sahel circule. S'il ne change pas, la couleur du document de voyage sera le vert en recto. La mention Confédération des États du Sahel, AES, en dessous le nom du pays émetteur et ses armoiries. En verso, une carte géographique englobant les 3 pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Mais le 29 janvier, on n'assistera pas à une mise en circulation en fanfare de ce nouveau document des 3 pays dirigés par des putschistes. Les passeports estampillés CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, détenus par les ressortissants maliens, nigériens et burkinabés, seront toujours valables jusqu'à leur date d'expiration. C'est un communiqué de l'AES qui le précise. Autre précision, les citoyens de la Confédération AES, détenteurs des passeports arborant le logo de la CDAO en cours de validité, peuvent les remplacer par les nouveaux documents de voyage à partir du 29 janvier. En principe, malgré cette décision, les passerelles ne sont pas totalement coupées entre la CEDEAO et l'AES. Un pays comme le Mali a déjà annoncé que, sous certaines conditions, son territoire sera ouvert aux ressortissants de la CEDEAO. En fait, Bamako espère le principe de réciprocité. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Le FMI annonce un décaissement immédiat d'environ 51 millions de dollars pour le Niger. Le Fonds monétaire international qui a conclu sa consultation de l'économie nigérienne pour 2024 s'attend en effet à une reprise robuste, Alexis Ledu.
Le pétrole nigérien en accélérateur de croissance, ce sont les prévisions du Fonds monétaire international. Croissance du PIB estimée à 8,8% pour 2024 grâce à la production pétrolière. C'est en deçà de certaines prévisions réalisées en début d'année. Pour rappel, la Banque africaine de développement tablait alors sur plus de 11%. L'augmentation des richesses devrait se poursuivre cette année avec des exportations d'or noir qui s'accentueront grâce à la normalisation des activités commerciales frontale avec le Bénin, dixit le FMI, même si la frontière reste aujourd'hui fermée. Cependant, les risques de crise de la dette sont élevés, assure l'institution financière. L'économie nigérienne est en effet toujours fragile, prise au piège entre les conflits armés, les chocs climatiques et l'instabilité politique. Les sanctions prises suite au coup d'État de juillet 2023 ont aussi affecté durablement les conditions économiques et sociales. Enfin, un gros travail doit être réalisé pour mobiliser le secteur privé, répète le FMI. L'accès à des financements pour ces entreprises reste encore très limité.
Au Nigeria, une hausse des tarifs de téléphonie mobile. Ils vont augmenter de 50%. Les opérateurs avaient réclamé le doublement des prix. La Commission nigériane des communications a finalement tranché la poire en deux, Charlotte Cosset.
Cet ajustement vise notamment à combler l'écart important entre les coûts opérationnels et les tarifs actuels, tout en garantissant la fourniture des services, précise le communiqué de la Commission. Elle doit également permettre aux opérateurs d'améliorer le réseau et la couverture. Et pour cela, les opérateurs doivent investir dans les infrastructures et l'innovation, alors que les tarifs étaient inchangés depuis 2013. Lignes, plateformes, logiciels, ces investissements se font en dollars, souligne la spécialiste du secteur, Teklam Bong. Dans un contexte de forte dépréciation du Naira, les coûts sont de fait plus lourds à porter. La suppression des subventions au carburant ont également imposé de nouvelles charges pour les opérateurs, les générateurs prenant régulièrement le relais d'un réseau électrique aléatoire. Cependant, cette augmentation intervient dans un contexte économique compliqué pour les Nigérians. Ces derniers sont confrontés à l'une des pires crises du coût de la vie avec une inflation qui dépasse les 30%. Cette hausse va peser sur les budgets des ménages. L'Agence nigérienne de protection des consommateurs a prévenu, cette hausse doit se traduire par une amélioration significative du service.
En Afrique du Sud, des familles de victimes de l'apartheid accusent l'ANC, au pouvoir depuis 1994, de ne pas avoir assez enquêté sur les crimes et atrocités du régime ségrégationniste. Une commission vérité et réconciliation a bien entendu pendant 3 ans victimes et bourreaux, mais la justice n'a pas suivi et très peu de procès ont eu lieu pour les familles qui attendent toujours des réponses. C'est l'ANC qui est responsable d'un déni de justice. À Johannesburg, le reportage de Valentin Hugues.
Yasmine Souka était membre de cette commission vérité-réconciliation qui a pris fin en 1998.
Pendant 3 ans, la commission a entendu des victimes et des bourreaux. L'État devait ensuite prendre le relais et faire son travail, ouvrir des enquêtes, mais il ne l'a pas fait.
Depuis la fin de l'apartheid, il y a eu très peu de procès, alors les familles attendent toujours des réponses. Lukanyo Kalata est le fils de Fort Kalata, militant anti-apartheid tué en 1985 à 28 ans.
Ils ont brûlé son corps et lui ont arraché la langue. Puis, dans un pays devenu une démocratie, l'ANC est arrivé au pouvoir et mon père a été trahi. Parce que finalement, qu'est-ce qui est pire ? Le gouvernement d'apartheid qui a tué mon père ou l'ANC qui a refusé de lui rendre justice ?
Aujourd'hui, ces familles demandent donc des comptes à l'État. Odette Gillenius, avocate en charge du dossier.
La plupart des meurtriers sont morts. Le dernier recours pour ces familles, c'est de se tourner vers la Cour et forcer le président à identifier les politiques qui ont fait obstruction à la justice, comprendre pourquoi ils ont agi ainsi et réfléchir à ce qui peut être mis en place maintenant pour ces familles.
Des familles qui regrettent que 30 ans après la fin de l'apartheid, elles aient encore à saisir la justice pour espérer obtenir des réponses. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
13h43 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le plus gros diamant de l'histoire de la Centrafrique, découvert dans la préfecture de Mbomou, et les sports du football, l'attaquant égyptien Omar Marmouche quitte Francfort pour rejoindre Manchester City. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi, aux Comores, les électeurs de 4 circonscriptions retourneront aux urnes jeudi prochain pour le premier tour des élections législatives partielles. Cette décision intervient après l'annulation des résultats dans ces circonscriptions par la Cour suprême en raison d'irrégularités, notamment des bourrages d'urnes et des remplacements non justifiés de membres de bureaux de vote. Un premier bilan au Cameroun, 1 an après le lancement de la vaccination contre le paludisme. On parle du vaccin RTSS, le tout premier à avoir été développé contre la malaria. Il s'adresse, ce vaccin, aux enfants. Il faut 4 doses pour atteindre son efficacité optimale. Il n'est pas une solution miracle et seul 1/5 des districts de santé camerounais avaient pu en profiter. Toutefois, les effets sont là, pour le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, le docteur Shalom Tchokfendula, qui note une baisse de consultations significative, moins 17%.
S'il y a 17% de consultations en moins, ça veut dire que les gens tombent moins malades et on fait une supposition que c'est surtout parce qu'ils sont moins malades du paludisme. Et là, on parle de la population de moins de 5 ans. Même avec un nombre limité de doses de vaccins, même avec un temps de recul très faible, la tendance est déjà positive dès la première année. En fait, c'est un résultat très, très remarquable sur les données empiriques et aussi sur les témoignages des parents très, très positifs. Donc, il est évident que maintenant que nous avons passé la première année, qu'on réfléchisse à l'extension. On va espérer que les pressions des organisations qui militent pour améliorer les accès à la vaccination va quand même baisser le prix. C'est ce que nous souhaitons tous. Pour qu'un outil aussi important dans la santé publique, on ne devrait pas avoir des barrières financières pour y accéder.
Des propos recueillis par Amélie Tulé. Actuellement, la dose de RTSS coûte environ 9 dollars, un coût supporté par le Cameroun et l'Alliance mondiale pour le vaccin Gavi. Un diamant d'une taille exceptionnelle découvert en Centrafrique. Un diamant de presque 178 carats, extrait dans la préfecture du Mbomou, dans le sud-est. Son collecteur l'a présenté mercredi au Bec d'Or, le bureau d'évaluation et de contrôle du diamant et de l'or à Bangui, Rolf-Steph Demialeux.
C'est un diamant translucide qui ne présente aucune teinte visible à l'œil nu. Cette découverte intervient après la levée en novembre dernier de l'embargo imposé par le processus de Kimberley, une organisation qui régule le commerce des diamants. Après la crise militaro-politique de 2013, cet embargo avait été instauré sur les exportations de diamants centrafricains pour éviter le commerce de pierres précieuses issues des zones de conflit. Rufin Benam Beltungu est le ministre centrafricain des Mines.
Et au bénéfice de la levée totale de l'embargo, cette population qui était meurtrie a repris ses activités de production de diamants. C'est en cela qu'un artisan a découvert un diamant de 177,95 carats. Puisque vous connaissez comment la chaîne de traçabilité est organisée chez nous en République centrafricaine, c'est comme cela que le collecteur qui est propriétaire de cette pierre a ramené cette pierre ici à Bangui.
Mais pour l'instant, il est trop tôt pour estimer la valeur de ce diamant, explique le ministre.
Nous laissons le temps à l'équipe d'experts du Bec d'Or de pouvoir expertiser en toute quiétude et ils vont produire leur rapport. Et aujourd'hui, cette pierre se trouve entre les mains de l'administration publique. Mais cette pierre appartient au collecteur qui en avait financé la production.
Alors que certains investisseurs étaient réticents à un retour en Centrafrique après des années de crise, cette découverte est selon les autorités un signal fort pour relancer l'économie du pays. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Dans l'actualité des sports du football, c'est l'une des sensations du mercato d'hiver. Omar Marmoush quitte l'Allemagne et l'Eintracht Francfort pour rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola. Le prolifique attaquant égyptien a choisi de passer un cap dans le championnat le plus relevé de la planète. Il s'est engagé hier jeudi pour 4 ans et demi jusqu'en 2029 et City a déboursé entre 70 et 80 millions d'euros pour le faire venir, Baptiste Leduc.
Y a-t-il une chose qu'Omar Marmoush ne sache pas faire? Marquer, c'est devenu sa spécialité. Encore méconnu la saison dernière, l'Égyptien ne s'arrête plus de planter. 20 buts en 26 matchs, dont 15 en championnat, seul Harry Kane fait mieux en Bundesliga. Faire jouer ses partenaires, pas de problème non plus. Le Pharaon est le meilleur passeur du championnat allemand avec 9 caviars distribués. Ces 3 coups francs marqués en une semaine en novembre ont aussi fait d'Omar Marmoush un des joueurs les plus redoutables de la planète sur coups de pied arrêtés. Une palette si large attire l'attention et c'est donc à Manchester City qu'il a choisi de poursuivre son ascension fulgurante. Habitué à briller dans un système à 2 attaquants à Francfort, où sa complicité avec le français Hugo Ekitike a fait merveille, Omar Marmoush arrive cette fois dans une équipe où le poste d'unique numéro 9 est occupé par Erling Haaland, qui a prolongé chez les Sky Blues jusqu'en 2034 et risque de faire un peu d'ombre à l'Égyptien. S'imposer au pays de son compatriote Mohamed Salah sera un défi de taille à la hauteur du talent d'Omar Marmoush.
Il est 13h49 à Paris. Contenir les grands titres de ce vendredi 24 janvier.
La mise à exécution des promesses ou des menaces de Donald Trump. Près de 600 personnes ont été arrêtées hier dans des villes démocrates. Ces villes sanctuaires qui refusent de collaborer avec le dirigeant républicain sur la question de l'immigration. 600 personnes sans permis de séjour. On y reviendra dans quelques minutes dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. 12 morts au moins dans l'opération israélienne à Jénine en Cisjordanie. Elle dure depuis lundi. Et les Nations Unies dénoncent ce vendredi l'usage par l'armée israélienne de méthodes de guerre et le recours illégal à la force létale. Israël prévient de son côté que le retrait de ses troupes du Liban se poursuivra au-delà des 60 jours prévus par l'accord de cessez-le-feu. Un an de prison avec sursis pour Rodrigue Petitot, le leader du mouvement contre la vie chère dans le département français de Martinique, condamné pour avoir fait intrusion avec 3 autres militants dans la résidence du préfet en novembre dernier. Et puis le président français annonce qu'il se rendra la semaine prochaine au Louvre après l'alerte lancée par sa directrice sur le mauvais état et la dégradation du plus grand musée du monde. Au Mali, plusieurs partis politiques demandent à nouveau, dans une déclaration commune, le retour à l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections. Parmi ces partis, l'ADEMA, le Parena ou encore Yelema, le parti de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Youssouf Diawara, président de Yelema, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Youssouf Diawara.
Bonjour.
Cela fait 4 ans et demi que vous réclamez l'organisation d'élections. Pourquoi renouvelez-vous cet appel aujourd'hui ?
Comme vous l'avez dit, ça fait 4 années que nous avons demandé d'évoluer de façon sereine dans la transition et aussi de sortir par le haut de cette transition. Et nous avons toujours demandé de façon formelle qu'on puisse travailler à créer un cadre de concertation inclusif et beaucoup plus consensuel pour qu'ensemble on puisse définir les orientations et nous permettre de sortir. Vous avez dû certainement constater qu'il y a eu une série de reports, indépendamment de nous d'ailleurs, est fixé et repris par les autorités. Quand on se fixe des objectifs et qu'on ne les atteint pas, il va de soi qu'on continue à réclamer. Donc, je trouve normal qu'après 2 prolongations et 1 sans limite d'ailleurs, il serait important pour nous en tant que parti politique de demander à nos autorités qu'on fixe un peu le cap aussi pour sortir dans une transition qui ne fait que trop durer.
Vous avez été étonné que le président de la transition, le général Assimi Goïta, ne fasse pas allusion à ces élections futures dans son discours du Nouvel An ?
Oui, bien sûr. Vous savez, par définition, un discours de fin d'année, au-delà de parler du bilan de l'année écoulée, ça nous projette sur l'année à venir, avec les grands chantiers qui sont en cours. Quand le premier responsable n'en fait pas cas, c'est étonnant de notre part et ce n'est pas rassurant.
Il y a tout de même une loi de finances qui a été adoptée en décembre et qui prévoit un budget pour l'organisation des élections.
Oui, quelque chose que nous avons d'ailleurs salué, le fait de voir le budget des élections inscrit dans la loi des finances et également la démarche du nouveau Premier ministre de rencontrer la classe politique. C'est des avancées que nous avons saluées. Mais quand le discours du président n'en fait pas cas, croyez-moi, c'est inquiétant. Et encore, quand on essaie de voir le processus des réformes qui sont mises en cours, ça donne aussi des inquiétudes. Parce que quand le ministre des réformes nous demande en tant que parti politique de faire nos propositions sur la charte des partis, c'est en mars qu'on doit déposer ces propositions. Imaginez, mars, ça veut dire que la session avril est déjà finie. Il faut attendre la fin de l'année maintenant pour peut-être présenter le projet de loi.
C'est pour ça que vous demandez un calendrier précis pour les élections dans les 3 mois.
Et vraiment, dans nos recommandations, nous avons vraiment demandé qu'on puisse nous donner un calendrier clair, un calendrier précis et consensuel pour nous permettre de savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude totale.
Et de communiquer urgemment sur ce calendrier.
Tout à fait.
Les autorités de transition ont toujours dit qu'elles comptaient organiser les élections, mais qu'elles le feraient quand les conditions, notamment sécuritaires, seraient réunies. Vous y croyez ?
Je pense qu'on a fait les référendums au pays, quoi. Plus complexe qu'une élection présidentielle. Je ne sais pas, entre-temps, qu'est-ce qui a évolué. C'est aussi important qu'on nous donne aussi les informations. Voilà. Est-ce que la situation sécuritaire s'est détériorée d'ici là ? Ils sont les mieux placés aussi pour nous donner ces détails d'informations. Et ce que nous entendons, c'est que vraiment, il y a une évolution nette de la situation sécuritaire. Et si la situation sécuritaire a bien évolué du moment du référendum à aujourd'hui, bon, je ne pense pas qu'il doit y avoir un problème de fond par rapport à cela.
Est-ce que le climat politique est propice, selon vous, à l'organisation d'élections libres et transparentes ? Vous réclamez vous-même le respect de l'état de droit et la libération des prisonniers d'opinion ?
Vous savez, moi je suis fondamentalement convaincu que rien, absolument rien n'est au-dessus d'un peuple qui décide de se mettre ensemble, quoi. Et qu'on ait le courage de créer le cadre dont on parle, qu'on ait le courage de discuter de façon libre sur les questions, les enjeux autour de notre pays, et qu'on écoute les solutions aussi que nous mettons sur la table. Je pense qu'autour de ça, nous serons en mesure de relever l'essentiel des défis qui s'offrent aujourd'hui à notre pays.
Les partis signataires de la déclaration, et le vôtre donc, disent qu'ils useront de tous les moyens légaux pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel. À quels moyens faites-vous référence ?
C'est ce que nous faisons toujours. Partout où nous pensons que les décisions ne sont pas à nos yeux conformes à la loi, nous l'attaquons devant qui des droits. Et partout où nous pensons que nous devrons prendre la parole, nous prenons la parole pour nous exprimer et nous soutenir ce qu'il y a à soutenir, dénoncer ce qu'il y a à dénoncer et combattre ce qu'il y a à combattre. Tout ce qui est légal à nos yeux, nous le ferons.
Une dernière question, Youssouf Diawara, sur une autre actualité du jour, l'annonce du lancement d'un passeport commun aux trois pays de l'AES, dont le Mali, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Vous savez, c'est profond comme question. Moi, je suis pas fondamentalement sur le principe de quitter la CEDEAO. Mon parti n'est pas inscrit dans cette dynamique. Et nos autorités ont décidé d'orienter le pays vers d'autres voies qui, pour nous, n'étaient pas contre notre appartenance à la CEDEAO. Si nous devrions travailler sur un certain nombre d'enjeux, et pour preuve, on avait un regroupement de cinq nations. Avec le G5 Sahel aujourd'hui qui n'existe pas, compte tenu d'un certain nombre de problèmes. Et si trois pays décident de se mettre ensemble sur des enjeux de sécurité, pour nous, c'est salutaire. Mais de là à sortir notre pays, de notre communauté sous-régionale qu'on a bâtie il y a plus de 50 ans cette année, j'avoue que ce n'était pas notre position, pour beaucoup d'autres raisons. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'évolution mondiale, notre organisation, la CEDEAO, était une des organisations les plus avancées de l'Afrique, en termes d'intégration, en termes de barrières tarifaires, en termes de beaucoup d'autres aspects, où on était vraiment en avance. Bon, maintenant, décider de sortir de là, ou même sur le plan économique, nous avons les économies les plus dynamiques de l'Afrique qui sont avec nous, un pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la première puissance qui est le Nigeria qui est aussi avec nous. Bon, décider de quitter une organisation pareille, nous avons beaucoup de réserves. Maintenant, la question du passeport, c'est de nous poser clairement les enjeux. Ce passeport, qu'est-ce que ça va nous apporter en tant que Maliens ? Est-ce que c'est aussi solide que le passeport de la CEDEAO ? Ce sont des questions qu'on aura les réponses dans les jours à venir, ça c'est clair. Maintenant, nous observons et nous prions que cela puisse bien marcher.
Merci Youssouf Diawara. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. On parle cinéma à présent. Le festival Yara, la semaine internationale du premier film, se tient à Yaoundé jusqu'à dimanche. Thème de cette 11e édition, l'avenir du cinéma africain à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Pour Sylvie Nouet, la directrice du festival, rien ne sert aux cinéastes d'avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut, dit-elle, faire avec et en profiter au maximum.
Maintenant, l'intelligence artificielle est partout. Il y a de quoi avoir peur, mais en même temps, nous savons bien que c'est un outil. Et cet outil-là, maintenant, l'Afrique, oui, l'Afrique centrale en particulier, en a besoin pour développer son cinéma, peut-être gagner en temps et créer plus. À partir du moment où le cinéma est une industrie et que l'industrie est censée être un vecteur économique puissant, si l'Afrique peut l'utiliser pour devenir comme Hollywood, Bollywood, etc., pourquoi pas ? Maintenant, l'outil n'est que l'outil, parce que c'est l'humain qui le fait et qui fabrique cet outil-là. L'être humain sera toujours au centre. L'être humain pourra toujours avoir une vision, une mainmise sur cet outil. Il nous revient à nous de savoir justement comment l'utiliser une fois de plus.
Sylvie Nouet, directrice du Festival Yara, au micro de Richard Onanena. C'est la fin de cette édition réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Virgile Durand, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À lundi, Nicolas Sûr. Vous restez sur notre antenne, on se retrouve dans quelques secondes pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Et puis vous le savez, vous pourrez aussi écouter une demi-heure d'informations en full day si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou bien en portugais si vous vous trouvez en Afrique lusophone. À tout de suite.
La marche du monde.
Valérie Nivelon.
À l'heure où les derniers témoins disparaissent, il est plus que jamais nécessaire de raconter avec précision l'histoire de chaque enfant, de chaque femme, de chaque homme assassiné à Auschwitz par les nazis, parce que juifs. 80 ans après, écoutons leur voix. Ils nous racontent leur vie pour mémoire.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.